Décryptage.
Loïc Bussière.
Deux fois en moins de six mois, deux crashs qui impliquent un Boeing 737 MAX, c'est beaucoup pour l'avionneur américain. Trop, en tout cas pour ne pas entraîner de réponse d'envergure, qui plus est pour un appareil appelé à remplir son carnet de commandes pour les années à venir. Un appareil aujourd'hui cloué au sol, d'un bout à l'autre du globe, y compris aux États-Unis, comme l'a annoncé hier Donald Trump, jusqu'à ce que Boeing trouve une solution, précise le locataire de la Maison Blanche, qui auparavant s'était opposé à une telle décision. Alors comment Boeing va-t-il gérer cette phase annoncée de turbulence? Quel lien l'avionneur entretient-il avec les politiques américains? C'est le sujet de Décryptage ce soir. Et on en parle avec nos invités, Michel Polacco et Yves Crozet. Bonsoir Michel Polacco.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste spécialiste de l'aéronautique, vous êtes auteur de Crash, pourquoi des avions s'écrasent-ils encore, édité par Le Chêne, un titre particulièrement à propos. Ce soir, en ligne avec nous également Yves Crozet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes économiste des transports. Alors, je lisais ce crash de l'avion d'Ethiopian Airlines qui a fait 157 morts dimanche. Il intervient 5 mois après celui de Lion Air. Les accidents sont extrêmement similaires, pour ne pas dire superposables, Michel Polacco.
Oui, c'est vrai que pour l'instant, on possède peu d'éléments précis sur l'accident de l'avion d'Ethiopian, mais par contre, on a pu décoder les boîtes noires. La mémoire du data recorder de l'avion de Lion Air. Et donc, on a vu ce qui s'était passé sur cet avion. Et quand on regarde ce que le service Flight Radar fournit comme courbe sur le vol, le peu de vol, les 6 minutes de vol du Boeing 737 MAX d'Ethiopian, eh bien, on peut presque superposer les courbes. C'est-à-dire qu'on voit les difficultés qu'a l'équipage pour arriver à essayer de maîtriser l'avion, l'empêcher de descendre. Et puis, jusqu'au moment où il est trop tard, l'avion descend à une très grande vitesse et s'écrase au sol. Donc oui, effectivement, il y a une très grande similitude entre ces deux accidents.
Alors, les boîtes noires confirmeront ou non, justement, celle de l'avion d'Ethiopian Airlines, ce qui s'est passé en ce qui concerne cet accident d'Addis Abeba. Il n'empêche, ces similitudes entre les deux accidents, elles posent question. Mêmes appareils, même remontée des pilotes, semble-t-il, dans les deux cas, hein, sur des problèmes qui se posaient sur cet appareil. Est-ce qu'on peut parler de passivité de Boeing, de manque de réactivité, en tout cas, après le crash du 29 octobre, celui de Lion Air?
Alors, c'est vrai qu'on découvre ça en ce moment, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que tout le système de transport aérien, qui pourtant est un système extrêmement sophistiqué et qui permet d'aller vers plus de sécurité sans cesse, en exploitant non pas seulement les accidents, et heureusement il y en a extrêmement peu, mais en exploitant aussi tous les incidents qui se produisent chaque jour dans diverses compagnies dans le monde. Moi, je suis abonné à une base de données, j'ai une douzaine d'incidents plus ou moins graves qui se produisent chaque jour dans le monde. Tout ça s'est exploité de manière à fabriquer de la sécurité. Et là, on est surpris de voir que d'abord, personne n'a tenu compte de la catastrophe de l'avion de Lion Air. Catastrophe, c'est un vrai accident. Et deuxièmement, au passage, on découvre que finalement, sur les 59 exploitants de Boeing 737 MAX dans le monde, qui en exploitent donc 371 exemplaires, ça a commencé il y a à peu près 2 ans, en mai 2017, eh bien, il y a plein de retours d'équipages qui ont eu des incidents plus ou moins graves et qui sont à chaque fois des incidents liés justement à ce système anti-décrochage qui a été rajouté, qui a été scotché sur ce vieil avion analogique qu'est le Boeing 737, qui est un bon avion, robuste, rustique, et sur lequel on a rajouté cette espèce de patch numérique qui manifestement est inadapté et qui en tout cas ne remplit pas sa fonction. Et donc là, on s'aperçoit que globalement le système est défaillant, que Boeing, qui a reçu évidemment les informations, n'a pas réagi de manière véritablement efficace, mais que les autorités de certification américaines, la FAA, l'administration fédérale de l'aviation, ou même l'autorité de certification européenne, l'Agence européenne de sécurité aérienne, n'ont pas réagi. On s'est contenté de publier des petites notes d'alerte, puis de dire oui, il faudrait informer les équipages que voilà, si ça se produit, il faut tirer des breakers. Quand vous êtes obligé de tirer 40 kilos sur un manche d'avion pour l'empêcher d'aller s'écraser, c'est pas aussi évident que ça d'aller chercher des breakers.
Alors on va interroger Yves Crozet sur cette question, celle de la, je disais, passivité de Boeing après l'accident de Lion Air. Est-ce que vous souscrivez justement à ce constat ?
Oui, il semble bien que Boeing ait sous-estimé les problèmes qu'avait cet avion, et on le voit très bien avec le retournement brutal de Donald Trump, qui a d'abord considéré que c'était une affaire de détail liée sans doute à des erreurs de pilotage, et qu'il a, sur l'avis, je pense, de ses conseillers, a dû changer de position, parce qu'il y a visiblement un problème important pour Boeing.
Alors cette décision, justement, on l'a vu cette semaine, les décisions des États en cascade, effectivement, de clouer cet avion 737 MAX au sol. Ça a été assez rapide, hein, c'est l'affaire de quelques jours, y compris pour les États-Unis. En revanche, on peut aussi se dire que ça arrive très tard, finalement, Yves Crozet. Après cette décision, elles auraient dû être prises après l'accident de Lion Air au mois d'octobre dernier.
Oui, mais vous savez, les accidents d'avion existent, comme vient de le dire Michel Polaco. Il y en a déjà eu plusieurs dizaines sur des Boeing 737, très souvent à cause de problèmes de pilotage. Donc, en plus, cela se passe dans des pays du tiers-monde. Je pense qu'il y a eu une considération que, finalement, ces accidents étaient liés à des problèmes de manque de formation des pilotes. Et c'est quand on a fait remonter les informations des pilotes américains que l'on s'est rendu compte que le problème était plus général.
Alors, je vais rebondir justement sur ce que vous venez de dire, Yves Crozet. Michel Polaco, est-ce que justement, si une telle catastrophe que celle de Lion Air ou d'Ethiopian Airlines était arrivée sur une autre compagnie, justement, Lion Air, c'est une compagnie low cost qui a été inscrite pendant entre 2013 et 2016, je crois, sur la liste noire de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale. C'est une compagnie qui a connu 5 accidents depuis 2003. Que se serait-il passé? Y aurait-il eu des décisions différentes si c'était arrivé sur, que sais-je, Air France ou la Lufthansa?
Écoutez, je crois qu'il faut être très très modeste, parce que nous avons vu d'autres cas de viscosité administrative face à des situations comparables. C'est vrai que là, par exemple, on aurait pu s'attendre, après la catastrophe de l'avion éthiopien, à ce que l'Agence européenne de sécurité aérienne, que l'Agence fédérale de sécurité, la FAA, prennent tout de suite la décision d'interrompre les vols de ces avions à titre préservatoire, parce qu'il faut que le doute profite à la sécurité. Ben non, ce sont les États qui ont pris ces décisions, et quasiment sous la pression des passagers. Donc on est quand même dans une situation étonnante. Ben ça s'est déjà vu. Et voyez, par exemple, quand on prend le vol à F447, le vol d'Air France Rio-Paris, bon, évidemment, à la fin, quand on a tout su, on a bien vu qu'il y avait eu des soucis avec le traitement des problèmes par l'équipage. Mais quand on décortique tout ce vol, on s'aperçoit quand même il y a eu 40 incidents qui ont précédé dans les années 2005-2010, et que ces incidents n'ont pas été pris en compte. Ils ont été traités avec une certaine légèreté. Il y avait des problèmes de sonde, de givrage de sonde. Ça avait une incidence assez ennuyeuse sur les commandes de vol et sur le système de pilotage automatique de l'avion. Ça faisait des trucs bizarres, les équipages comprenaient pas toujours très bien ce qui se passait. Et puis non, bah, il s'est rien passé. Donc vous voyez, faut pas croire que c'est parce que c'est le tiers-monde. Faut savoir que quand même, le Boeing 737 MAX, c'est pas un avion du tiers-monde. C'est un avion de compagnie riche, majeure, qui ont les moyens de s'acheter un avion qui vaut entre 110 et 130 millions de dollars. Que c'est pareil pour les Airbus, et que par conséquent, les constructeurs ou les autorités de certification, où que se produise l'accident, ça les intéresse. C'est la FAA qui est responsable de la certification du Boeing 737.
C'est l'autorité de régulation de l'aviation civile américaine.
C'est l'administration de l'aviation civile, la DGAC américaine, si on veut, qui est responsable du Boeing 737. Et si ça se produit n'importe où dans le monde et sous n'importe quel pavillon de n'importe quelle compagnie, ça doit les secouer, ça doit les mobiliser. Donc non, je ne suis pas convaincu que ça aurait été mieux si ça s'était produit en Europe.
Alors je voudrais qu'on vienne au conséquences économiques proprement dites, justement, de cette catastrophe d'Ethiopian Airlines, consécutive à celle de Lion Air. Je vais m'adresser à vous, Yves Crozet, en qualité d'économiste des transports. Est-ce que la chute de Boeing à la bourse de New York ces derniers jours, est-ce que c'est un vrai coup dur pour l'avionneur, ou est-ce que c'est une péripétie de plus pour une entreprise qui n'a pas vraiment de problème d'argent?
Si la chute durait quelques jours et qu'on trouve on règle les problèmes du 737 dans les semaines qui viennent, ça ne sera qu'une péripétie. L'entreprise Boeing est une entreprise extrêmement profitable, plus de 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires, des profits qui dépassent 10 milliards. Il y a encore quelques jours, dans les journaux spécialisés, on établissait le bilan très flatteur de Boeing pour 2018 et des grandes perspectives pour 2019. Donc, encore une fois, des avions ont déjà été cloués au sol pour certains nombres de problèmes. Certains 737 d'ailleurs il y a une vingtaine d'années, le Dreamliner avait été cloué au sol pour des questions de batterie, même l'Airbus A380 pour des questions de motorisation. Donc des incidents de ce type-là existent. Si ça dure quelques semaines, ce n'est qu'une péripétie. La difficulté, c'est que si il faut vraiment bloquer les avions pendant plusieurs mois, et que vont devenir les commandes, les 5737 MAX qui sont en commande, là, évidemment, ça pourrait devenir beaucoup plus problématique pour Boeing.
Michel Polacco, il est trop tôt pour évaluer les répercussions de ces accidents ?
Ben oui, c'est trop tôt parce qu'on ne sait pas quelle va être la réaction de Boeing et la réaction de l'administration américaine de l'aviation civile, et même la réaction de l'administration européenne, parce que même si les Américains décident de remettre les Boeing 737 MAX en vol, il faut quand même être sûr que les autres administrations à travers le monde, en Chine, en Europe, etc., seront d'accord. Vous voyez, on peut se poser la question. Donc il faut quand même que Boeing propose des solutions qui soient acceptables, qui soient raisonnables, qui rassurent les compagnies, qui rassurent les passagers. Or, ils ont trois possibilités. Ils rajoutent un pansement sur le pansement qu'ils ont déjà rajouté sur cet avion, puisqu'on a compris que cet avion, c'est l'ultime modernisation, la quatrième génération du Boeing 737.
Vous oubliez, c'est un vieil avion.
Un avion analogique, rustique, sympathique, mais là, on est arrivé au bout de ce qu'on pouvait faire pour le moderniser. Et donc, ou bien, ils font encore un pansement là-dessus, et ils espèrent que ça va passer, et peut-être ça passe, mais il faut surtout pas qu'il y ait un nouvel accident. Ou bien alors, ils s'arrêtent un temps, ils disent, bon, ben voilà, tant pis, pendant 2 ans, on fournit pas de Boeing 737 MAX, on va activer les chaînes sur les modèles précédents qu'ils continuent à produire, et on va essayer de servir nos clients avec la génération d'avant. Et on fait une véritable évolution de ce 737 MAX. On remonte le train d'atterrissage, on repositionne les moteurs, on améliore l'aérodynamique et on lui met des systèmes cohérents d'aide au pilotage. Alors ça, ce serait intéressant, mais déjà très coûteux. Ça va être plusieurs milliards de dollars.
Est-ce que c'est envisageable ? Je vais m'adresser justement à
Yves Crozet. Ou bien alors on lance le nouvel avion que Boeing aurait dû lancer depuis 10 à 15 ans et qu'ils n'ont pas lancé.
Yves Crozet, votre avis justement là-dessus, est-ce que Boeing peut se permettre d'arrêter la production du 737 MAX ?
Alors, d'arrêter la production, il y a d'autres modèles qui peuvent exister, mais il faut savoir que Boeing a à peu près un peu moins de 6000 avions en commande. Sur les 6000, il y a 5737. Donc c'est vraiment la vache à lait, comme Airbus A320 pour Airbus. Et donc arrêter cette vache à lait pendant 2 ans, ça risque de poser beaucoup de problèmes. Mais comme vient de le dire Michel Polacco, le risque, bien sûr, ce serait de reprendre les vols et qu'il y ait un nouvel accident. Et là, on pourrait imaginer des annulations de commandes, etc. Et d'un seul coup, la compagnie se trouvait dans des situations très délicates.
Alors les conséquences en tout cas de ces accidents, ils ne touchent pas uniquement Boeing, hein, il ne faut pas raisonner uniquement
avec
l'avionneur, les sous-traitants.
Mais vous savez, un avion, c'est des moteurs, c'est de l'électronique, c'est une cellule, c'est des tas d'équipements. Vous voyez par exemple le train d'atterrissage du Boeing 737 MAX, pour une grosse part, il est français.
C'est Safran.
Les moteurs, oui, c'est Safran, Messier, l'ex-Messier hispano, etc. Bon, les moteurs, c'est CFM International, c'est-à-dire la filiale de Safran et de General Electric. 50% français, 50% américain. Bon, et puis il y a 30 équipementiers en France et en Europe qui vivent sur le Boeing 737. Et ces gens-là, s'ils se portent mal, ça va nuire aussi à Airbus, qui a besoin qu'ils soient en bonne santé. Donc, si vous voulez, c'est tout le système qui est en déséquilibre, et je crois que ça ne profite finalement à personne. Il faut bien se dire que ça ne profite à personne, et que c'est pas Airbus qui pourra compenser les Boeing que Boeing ne pourra pas livrer pendant les 2 ou 3 ans qui viennent. Ça, c'est pas Airbus qui pourra le faire. Ils n'en sont pas capables.
Et on comprend mieux, donc, les hésitations, le temps pris, peut-être justement, le temps de réaction de Boeing ces derniers jours, Yves Crozet.
Oui, tout à fait, puisque pour eux l'enjeu est important. Ils sont devant une situation relativement nouvelle, puisque c'est un problème encore une fois sur leur produit tête de gondole. Et donc la difficulté pour eux, ça va être de gérer à la fois le fait qu'il faut qu'ils fassent rentrer du cash dans les années qui viennent, et en même temps qu'ils ne peuvent plus se permettre un nouvel accident.
Je voudrais qu'on revienne sur cette décision américaine de clouer au sol ce 737 MAX, Michel Polacco. Elle est intervenue hier, après...
Trois jours d'hésitation
et de vase de la part de Donald Trump, qui a même avancé pour le coup des propos qui seraient pas choquants dans le cadre du Café du Commerce, à savoir dire que les avions aujourd'hui, ma bonne dame, sont compliqués à piloter avec toute cette électronique à l'intérieur, mais de la part d'un dirigeant d'une grande puissance mondiale, c'est un petit peu léger, non ?
C'est très étonnant que ce soit d'abord d'abord le président des États-Unis qui prenne la décision, si vous voulez. Il y a des gens dont c'est le métier.
Est-ce que ça en dit long sur le lien justement entre Boeing et
non,
le
ça en dit long sur l'évolution du monde, si vous voulez, où des tas de gens se mêlent de tas de choses sans avoir obligatoirement à y voir. Et puis des gens qui ont des responsabilités à prendre ne les prennent pas. Et donc c'est le politique qui est obligé de se substituer. Ça n'est pas normal que ce ne soit pas le constructeur et l'administration de certification qui ait rapidement pris des décisions et qui ait pris la parole. Le premier tweet de Donald Trump, qui d'ailleurs était très décalé parce que il ne faisait pas vraiment relation à la réalité du problème qui est posé. Mais enfin bon, c'était quand même déjà la preuve qu'il y avait un vide politique et administratif aux États-Unis. Vous voyez, c'est quand même pas normal. Donc non, on est dans une situation très particulière où ce sont des États pour la première fois qui empêchent un avion de voler. Et non pas des administrations et des ingénieurs et des techniciens et des responsables d'autorités de certification. Donc c'est déjà une situation tout à fait inédite. Et maintenant, il faut voir qui va réautoriser cet avion à voler et dans quelles conditions. Et ça, c'est aussi très important. Et j'ajoute que, on parlait de Boeing, faut savoir que Boeing est le maître du jeu sur les gros porteurs, puisque l'Airbus 380 maintenant va petit à petit sortir du circuit. Mais en revanche, sur le petit porteur, c'est quand même Airbus qui a pris l'avantage, parce que Airbus a sorti son avion 20 ans après le Boeing 737. C'est un avion moderne avec des commandes de vol électriques. Il est encore perfectible, alors que le Boeing 737 est arrivé au bout. Et donc, si vous voulez, là, pour Boeing, il y a quand même un énorme enjeu. Ou bien ils sortent du marché du court moyen courrier, alors c'est pas imaginable, comme le disait Yves Crozet, ou bien ils font quelque chose pour rester crédibles sur ce marché. Or là, si vous voulez, ils étaient crédibles parce qu'ils étaient les moins chers, hein. Mais, et puis que leur avion, bon, il était bon, il était vieux, il était rustique, il était sympathique, il était robuste. Mais là, s'il y a un doute sur l'avion, d'un seul coup, tout s'effondre, vous voyez.
Cette décision, justement, d'immobiliser les appareils, est-ce que c'était, on peut le dire, le scénario catastrophe pour l'avionneur américain?
Ben, c'est un scénario catastrophe et en même temps, j'en vois pas d'autre. Parce que si vous voulez, qui peut prendre la responsabilité de laisser voler un avion quand on sait qu'il y a sur cet avion un problème natif, un problème fondamental, et que les pilotes sont pas des pilotes d'essai, hein. Faut arrêter de demander aux pilotes d'être capables de gérer ce que les constructeurs ne savent pas gérer, quand même.
Non, il n'empêche, je vais citer là pour le coup le patron de Boeing, Dennis Muilenburg, qui dit aujourd'hui, nous soutenons la décision américaine de clouer les avions au sol dans un excès de précaution. Est-ce qu'on peut parler d'excès de précaution quand il y a eu deux accidents dans des conditions similaires qui ont fait plus de 300 morts? Est-ce que c'est vraiment approprié? Je m'adresse à vous et à Yves Crozet.
Alors moi, je vous réponds, il doit être chinois, vous savez. C'est une manière de sauver la face. Mais vous avez vu ce communiqué de Boeing qui tombe après la décision de l'autorité politique des États-Unis et qui dit « Nous soutenons la décision de l'administration fédérale à qui nous avons recommandé de faire arrêter les vols de ces avions ». Bon, c'est une drôle de manière... Hein, Yves Crozet.
Oui, oui, tout à fait. C'est assez surprenant. Bon, il faut évidemment garder la face et il faut donner l'impression que l'administration a pris des dispositions un petit peu exagérées. Mais encore une fois, je pense que le raisonnement souvent chez les constructeurs est de dire les accidents viennent essentiellement des erreurs de pilotage. Donc, ce sont les pilotes qui doivent changer leurs habitudes. Alors que là, il semble bien que on est plus qu'un problème d'erreur de pilotage.
D'autant plus que là, si les pilotes doivent changer leurs habitudes, c'est peut-être aussi qu'ils doivent être mieux formés, et ça aussi, ça coûte cher.
Non, mais il faut toujours mieux former les pilotes, ça c'est sûr, comme il faut mieux former les hôtesses et les stewards, et comme il faut mieux former les techniciens au sol, etc. Enfin, là, c'est pas les pilotes, je veux dire, on leur met entre les mains un avion sur lequel il y a un problème que les pilotes d'essai de Boeing ont eu beaucoup de mal à résoudre. Ils se sont fait peur. Ils ont arrêté les vols d'essai pendant 4 mois chez Boeing. Donc, si vous voulez, quand même, c'est des gens qui, eux, étaient en alerte, qui étaient formés, dont c'était le métier. Eux-mêmes, ils ont arrêté les vols d'essai de l'avion. Donc, ça veut bien dire qu'il y a quand même un vrai souci et que c'est pas les pilotes de ligne de tous les jours, dont c'est le métier d'être des pilotes de tous les jours, qui sont responsables.
Et on n'en dira pas davantage ce soir sur ce sujet. Merci beaucoup, Michel Polaco, d'être venu jusqu'à nous. Merci à Yves Crozet, également, qui était en ligne avec nous. Merci à Brice Violet, qui était à la réalisation, à Éléonore Krenik pour son aide dans la préparation de cette émission. Tout de suite, le retour de l'info sur RFI.